Nous commencerons notre étude de la Renaissance française avec un recueil de nouvelles, l'Heptaméron de Marguerite Navarre. La Renaissance en France, c'est essentiellement le XVIe siècle. C'est l'époque où la France est sous l'influence, sous une grande influence artistique et culturelle de l'Italie. Mais ceci, le XVIe siècle, c'est l'époque en Europe de la Réforme. Donc d'abord la réforme luthérienne à partir de 1517 et ensuite la réforme calviniste dans les années 1530. N'oublions pas que Calvin, avant d'émigrer à Genève, est un Français. Au milieu de tout cela se trouve Marguerite de Navarre, l'auteur de l'Heptaméron. Marguerite de Navarre qui a vécu essentiellement dans la première moitié du XVIe siècle. Elle est morte en 1549. Marguerite de Navarre est un personnage exceptionnel. Exceptionnel ne fût-ce que par le fait que c'est la sœur du roi de France, François Ier, le grand roi qui mena des guerres en Italie et qui était le patron des arts, de l'architecture, de la peinture, de la littérature, de la première Renaissance en France. Donc, Marguerite de Navarre est la sœur du roi de France. Elle est elle-même reine d'un petit royaume, le royaume de Navarre, situé de deux côtés des Pyrénées, du côté espagnol et du côté français. Mais, en fin de compte, c'est un royaume qui est plus ou moins soumis au roi de France. Donc, Marguerite de Navarre est une grande aristocrate, c'est une princesse. Elle se trouve au centre de la politique française et elle se trouve au centre, en fin de compte, de la politique européenne. Mais aussi, Marguerite Navarre est un auteur qui a beaucoup écrit. Elle a écrit des poésies, elle a écrit des pièces de théâtre et l'Heptaméron est, en fin de compte, le seul exemple d'une œuvre narrative en prose de Marguerite Navarre. Troisièmement, Marguerite Navarre est non seulement une politicienne, si vous voulez, non seulement une écrivaine, mais aussi Marguerite Navarre a été très engagée dans un mouvement religieux, dans un mouvement spirituel, en fin de compte, à l'intérieur de l'Église catholique, justement dans la première moitié du XVIe siècle, un mouvement que les historiens ont appelé l'évangélisme français. Attention, l'évangélisme français, ça ne veut pas dire la même chose que le mot que vous connaissez de l'anglais, qui désigne un mouvement protestant, une confession, en fin de compte, protestante aux États-Unis. Non, l'évangélisme français est un mouvement à l'intérieur de l'Église catholique et dont le but est le renouveau spirituel de l'Église catholique. Nous sommes, encore une fois, à l'époque d'une grande confrontation, un grand débat sur les questions religieuses entre, à l'intérieur de l'Église catholique, entre les catholiques, les luthériens, les calvinistes et d'autres branches protestantes. Nous sommes à une époque d'une grande effervescence du débat de questions religieuses. Et ceci est très important pour comprendre l'Heptaméron. L'Heptaméron est un recueil de nouvelles, comme je l'ai dit, que la reine a écrit à la fin de sa vie, dans les années 1540, qu'elle n'a pas terminé. Elle est morte donc en 1549 avant d'avoir terminé ce recueil. Et c'est pourquoi les éditeurs, après la mort de Marguerite Navarre, ont appelé ce recueil Heptaméron parce que la reine a composé un peu plus que 70 nouvelles. Ces nouvelles sont regroupées en journées. Chaque jour comprend 10 nouvelles, hepta, c'est-à-dire 7 en grec. Ce que je vous propose aujourd'hui à lire, c'est le prologue, donc l'introduction pour l'ensemble de ce recueil. Vous allez, en lisant ce prologue, et en lisant évidemment dans le livre donc que vous avez acheté, donc dans la version imprimée, vous allez connaître les narrateurs des nouvelles que vous allez lire ensuite dans chacune des ces journées. Vous allez savoir qui raconte ces nouvelles, qui sont ces gens-là, où se trouvent-ils, pourquoi se trouvent-ils là où ils se trouvent, d'où vient l'idée de raconter les nouvelles. Toutes ces questions sont justement éclaircies dans le prologue de l'Heptaméron. Je vous invite donc, s'il vous plaît, à prendre le livre, hein, l'Heptaméron, et je vous invite immédiatement à passer à la première page de votre lecture interactive. Vous y allez étudier de plus près le premier paragraphe du prologue, et ensuite vous allez lire les autres pages du prologue, guidées par la suite de la lecture interactive.